Au sommaire de ce journal, l'Australie introduit un niveau plus élevé de maîtrise de l'anglais pour les étudiants étrangers. Et en France, le code du travail de nouveau sur la table des négociations. Et le Premier ministre espagnol lance un ultimatum à la Catalogne. Des nouvelles normes pour la maîtrise de l'anglais seront introduites pour les étudiants étrangers qui désirent poursuivre des études universitaires en Australie. Ces mesures entreront en vigueur à partir de l'année prochaine. Ces normes seront également étendues à la formation professionnelle. Les étudiants seront désormais soumis à des examens pour évaluer leur niveau de maîtrise de l'anglais avant d'être admis dans toutes les études supérieures, qu'elles soient de type universitaire ou non. Le ministre fédéral de l'Éducation, Simon Birmingham, devrait annoncer ces nouvelles mesures à Hobart aujourd'hui. Selon lui, beaucoup d'étudiants étrangers passent actuellement entre les mailles du filet. Et s'adressant à Channel 9, le ministre Birmingham a déclaré que tout le monde bénéficiera des nouvelles normes.
We've all heard the different stories at times of the group work scenarios in universities where the Australian student is having to give a helping hand along to an international student whose English language skills just aren't quite good enough to participate. Well, for all of those parties involved, as well as the teachers and lecturers, it's only fair if they have English language skills to succeed.
Et le ministre de l'Immigration, Peter Dutton, qui est aussi un des plus grands partisans du non dans le débat sur le mariage pour tous en Australie, bien, le ministre Dutton estime que le oui va l'emporter. Le ministre de l'Immigration a fait cet aveu depuis Sydney et il a saisi l'occasion pour signaler que si la question devrait être débattue devant le Parlement, il votera en faveur du mariage pour tous. Le ministre du Trésor, Scott Morrison, qui lui aussi est opposé au mariage pour tous, a déclaré à la ABC que le gouvernement devrait se conformer à la volonté populaire en cas de victoire du oui.
Australians are having their say at the moment. That's what I wanted them to have. I wanted them to have their say on this issue. And the Parliament then, I imagine, will definitely, from the government's point of view, move if it does resolve a yes, then we'll do what we said we'd do, and that is facilitate a private member's bill to be considered by the Parliament. That's what we promised. That's what we'd do.
Et les Australiens sont appelés à se prononcer jusqu'au 7 novembre prochain. Selon l'ABS, le Bureau australien des statistiques, l'agence gouvernementale qui organise ce plébiscite, 10 millions de citoyens australiens se sont déjà prononcés, ce qui représente 62,5% des électeurs. En France, le président Emmanuel Macron doit lancer ce jeudi 12 octobre l'acte 2 de sa réforme du marché du travail avec le même objectif et la même méthode qu'à l'acte 1 pour la réforme du Code du travail. Le président recevra à l'Élysée les partenaires sociaux tout au long de la journée. Jean-Claude Mailly de Force ouvrière et Philippe Martinet de la CGT ouvrent le bal. Au menu de ce rencontre, les réformes de l'assurance chômage, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. L'objectif du gouvernement avec ces réformes est d'offrir davantage de protection aux travailleurs, mais le climat de tension provoqué par les ordonnances sur le Code du travail pourrait compliquer les discussions. Et toujours donc avec Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, bien le Président veut porter la question du traité avec le bloc sud-américain au prochain sommet de l'Union européenne la semaine prochaine. La France est en train de négocier un traité de libre-échange avec les États du Mercosur, qui sont le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Un premier tour des pourparlers devrait avoir lieu le mois prochain et un second tour pourrait se dérouler au mois de décembre prochain. Emmanuel Macron estime qu'il n'y a pas lieu de s'empresser, surtout compte tenu de la lenteur des discussions en cours.
Mais je ne suis pas favorable à ce que nous nous précipitions pour conclure avant la fin de l'année des négociations commerciales dont le mandat a été donné en 1999. Parce que c'est cela dont il s'agit lorsqu'on parle du Mercosur.
Et on reste dans la région des Amériques où le Premier ministre canadien termine aujourd'hui sa visite officielle aux États-Unis avant de s'envoler pour le Mexique. Durant son séjour aux États-Unis, qu'il a entamé il y a 2 jours, Justin Trudeau a essayé de convaincre Donald Trump de mettre un peu d'eau dans son vin. En effet, l'administration Trump se montre intransigeante en matière d'échanges commerciaux avec ses voisins d'Amérique du Nord. Ces 3 pays mènent actuellement d'intenses négociations pour le renouvellement de l'accord commercial qui les lie, l'ALENA. Justin Trudeau reste optimiste sur l'avenir de l'ALENA.
My optimism towards NAFTA, towards a renegotiation, isn't based on personality or reading political tea leaves. My optimism is based on the fact that I know how good NAFTA has been for millions of citizens of Canada, of the United States, and indeed for New Mexico.
Et la tension continue de monter entre l'Espagne, donc en Espagne, suite au vote pour l'indépendance de la Catalogne. Hier, à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire, le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a annoncé avoir formellement demandé au président régional catalan, Carles Puigdemont, de confirmer dans les 5 jours s'il a déclaré l'indépendance ou non après une séance confuse au Parlement catalan mardi. Monsieur Rajoy, lors d'une brève allocution télévisée, a précisé que cette demande se faisait dans le cadre de l'article 155 de la Constitution espagnole. Une menace à peine voilée de destituer l'autorité catalane. En effet, l'article 155 de la Constitution espagnole autorise au gouvernement espagnol de suspendre l'autonomie d'une région et de la soumettre à l'administration directe du gouvernement madrilène.
En el caso de que la respuesta sea afirmativa,
in the case of a positive answer, or there is no answer, Mr. Puigdemont will be asked to revoke the so-called Declaration of Independence. To the first question, he has as a deadline next Monday at 10 a.m. To the second one, let's hope it doesn't happen, he has as a deadline until Thursday at 10 a.m, Thursday next week.
Mais selon le président du Parlement catalan, invoquer l'article 155 de la Constitution pourrait en fait envenimer la situation. Et l'Union européenne, de son côté, a réitéré son soutien à l'unité de l'Espagne et au respect de sa Constitution. Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne, précise que Bruxelles est en contact permanent avec le gouvernement espagnol.
The Commission is following closely the situation in Spain and reiterates its earlier call for full respect of the Spanish constitutional order. We trust that Spanish institutions, Prime Minister Rajoy, with whom President Juncker is in constant contact, and all political forces who are working towards a solution within the framework of Spanish Constitution, and we are supporting the efforts to overcome division and fragmentation to ensure unity and respect of Spanish Constitution.
L'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour la Science et la Culture, est le nouveau champ de bataille entre le Qatar et plusieurs autres États arabes. L'organe spécialisé des Nations Unies, qui siège à Paris, doit élire prochainement son nouveau président. L'Égypte et le Qatar ont aligné tous deux leurs candidats respectifs. Et un porte-parole du gouvernement égyptien a annoncé dans un tweet que, contrairement à la FIFA, l'UNESCO n'est pas à vendre. Bien, il faisait allusion à la Coupe du Monde 2022, dont le Qatar a obtenu l'organisation dans des conditions plutôt controversées. Mais Hamad bin Abdulaziz Al-Khawari, le candidat qatari, est en tête dans les sondages et devrait l'emporter. Il a déclaré que s'il est élu, il sauvera l'UNESCO, une organisation par ailleurs minée par des rivalités régionales et un manque cruel des moyens financiers.
I have very clear vision. I have very specific ideas about saving UNESCO. So the whole world knows me very, very well. So I have to have the trust and I'm sure that it will win.
Et c'est ce jeudi 12 octobre que le président américain devrait se prononcer sur l'accord sur le nucléaire iranien. Bien conformément à la loi, la Maison-Blanche doit tous les 3 mois certifier que l'Iran remplit bien les conditions de l'accord. Donald Trump menace cette fois de refuser de donner cette certification, bien que les autres partenaires de l'accord assurent que Téhéran agit conformément au texte. Mais un tel geste de la Maison-Blanche ne signifie pas le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien. Ed Royce, un parlementaire américain appartenant au camp de Donald Trump, précise tout simplement qu'il faut imposer une application stricte des mesures préconisées par l'accord et que les États-Unis devront entamer des discussions avec leurs alliés pour préciser leur nouvelle position.
As flawed as the deal is, I believe we must now enforce the hell out of it. Let's work with allies to make certain that international inspectors have better access to possible nuclear sites, and we should address the fundamental sunset shortcoming, as our allies have recognized.
Retour en Australie, où l'ancien Premier ministre John Howard prévient les électeurs des deux circonscriptions de Nouvelle-Galles du Sud de ce qu'il considère comme une politique dangereuse du parti des chasseurs, le Shooters Party. Dans une lettre ouverte adressée aux électeurs de Cootamundra et Moree, deux électorats où se déroulent des élections anticipées ce week-end, bien John Howard dit que le parti des chasseurs voudrait en fait faciliter l'accès aux armes à feu. La lettre de l'ancien Premier ministre a été publiée dans le Daily Telegraph de ce jeudi et elle est co-signée par Tim Fischer, celui qui était son adjoint lorsque John Howard a introduit une loi sévère pour la détention d'armes à feu en Australie, une loi consécutive à la tuerie de Port Arthur. Et en Inde, la Cour suprême vient de prendre une décision historique pour le respect de l'intégrité des femmes. Elle a jugé hier que si un homme a des relations sexuelles avec sa femme mineure, cela constitue un viol. La plus haute cour du pays met ainsi fin à un vide juridique. Et sur les marchés financiers, un dollar australien vous achète aujourd'hui 78 centimes de dollars US et 66 centimes d'euros. Et un coup d'œil météo pour ce mardi, Perth 25 degrés, Adélaïde 18, Melbourne 19, Hobart 17, Canberra 22, Wollongong 24, Sydney 27, Newcastle 27, Brisbane 26, Cairns 31 et Darwin 35 degrés. Et à présent, un rappel des titres de l'actualité de ce jeudi. L'Australie introduit un niveau plus élevé de maîtrise de l'anglais pour les étudiants étrangers. Et en France, réforme du Code du travail, de nouveau sur la table de discussion. Et le Premier ministre espagnol lance un ultimatum à la Catalogne.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench